France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils ont bravé une sorte de mousson, voilà, on peut dire ça comme ça, un orage tropical qui s'est abattu sur la capitale, sur Paris aujourd'hui. Et ils sont venus et ils sont secs, c'est ça qui est incroyable, quelle magie que la radio et la télévision. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Stéphane Vernet, bonsoir.
Bonsoir,
de Ouest France également, Fleur Santisteban, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et membre du CEVIPOF, également Pierre Jacquemin, bonsoir, de la revue Regard, rédacteur en chef, et François Lorcival, bonsoir.
Bonsoir,
de
Jean-Mathieu.
Valeurs Actuelles. Et ce soir, on parlera d'économie, également de polémique, on parlera d'agriculture, bref, beaucoup de choses. Mais juste avant, nous recevons Paul Ackermann, bonsoir.
Bonsoir.
De l'œuf, avec vous, nous allons revenir sur la situation internationale, sponsorisée cette semaine par Donald Trump. En attendant cette nuit, le face-à-face historique entre le président américain et les leaders nord-coréen à Singapour, c'est le G7 et sa conclusion inattendue qui a occupé toutes les chancelleries. Quelques heures après la fin du sommet des plus grandes puissances économiques, Donald Trump retirait sa signature de l'accord et se fâchait avec son voisin canadien en tweetant que le premier ministre du pays de l'érable était malhonnête et faible. Trump n'aurait pas digéré l'attitude des autres chefs d'État à propos de la hausse des taxes douanières, mais de toute façon, pas de panique, tout le monde assure, on est tranquille. La preuve, c'est même Emmanuel Macron qui nous en parle, on l'écoute.
Le président Trump a vu qu'il y avait un front uni. Aurions-nous été divisés ? Point de suspension. Je pense que le fait d'avoir un front uni, en particulier d'avoir l'ensemble de l'Europe faisant front commun, était une condition essentielle.
Voilà, condition essentielle, et la conclusion du G7 par Emmanuel Macron. Alors, Paul Ackermann, forcément, Donald Trump... totalement imprévisible, ou alors tout simplement dirigeant d'une entreprise qui s'appellerait les États-Unis.
Oui, effectivement, quelque chose à quoi il nous a habitué, l'art du deal, à souffler le chaud et le froid à tour à tour. Donc visiblement, maintenant, il va falloir s'habituer à cette nouvelle, en tout cas nouvelle pour les États-Unis, manière de faire qu'on connaissait un peu de Poutine à l'époque, de l'Ukraine notamment, où il soufflait le chaud, le froid, et où le lendemain, le jour pour le lendemain, on avait une info à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Donc il y avait aussi, je pense, justement ce sommet avec Kim qui venait juste derrière et qu'il fallait peut-être faire une démonstration de force.
Ça a joué d'après vous, ça, justement, le fait de montrer à un moment sa force, de dire qu'il ne peut pas être enclin par les autres nations à faire un choix.
Voilà, ça, et aussi un peu faire peur par son imprévisibilité. On a vu que dans le feuilleton à rebondissement Kim-Trump, il y a eu des rebondissements encore plus surprenants que celui du G7. Et ça déstabilise. C'est difficile à analyser parce que ça, il n'y a pas de précédent, en tout cas récent. Donc, mais je pense qu'il y a un lien entre les deux.
Oui, oui, c'est ça. François Rossival, il y aurait un lien entre les deux, justement,
pour
montrer la force.
Non, de toute évidence, il y a un lien. D'abord parce que la chronologie est là. Il se passe 24 heures entre les deux événements. Non, je crois que ça nous déstabilise, nous, les commentateurs. Ça déstabilise beaucoup moins les diplomates parce que finalement, comme vous le dites, ils sont habitués à ces allers-retours.
Ils n'avaient pas l'air très habitués quand même qu'on leur parle de cette manière. Et la photo de l'AFP qui a fait le tour d'ailleurs des réseaux sociaux, on l'a vu, où ils sont tous face à Trump, on a compris que ça les a déstabilisés.
Écoutez, ça les a déstabilisés sur le moment. Parce que vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais une fois ce moment passé, ils reprennent leurs esprits, ils se disent, oui, effectivement, on a déjà eu ça au mois de novembre-décembre, quand les deux, le Nord-Coréen et Trump, s'insultaient, mais s'insultaient gravement,
au
point qu'on allait déclencher la guerre mondiale, etc. Bon. Et donc, oui, ça déclenche ça. De toute façon, c'est quoi un communiqué du G7 ? C'est un communiqué d'intention. Ça veut dire, on s'est vu, on s'est rencontrés, on a dit qu'il fallait la transparence, commercer, mettre fin aux sanctions, etc. Mais qui n'engage personne. Sauf que là, Trump le dit tout de suite, lui.
Oui.
Et puis, évidemment, il fallait pas que le prétentieux Justin Trudeau ne mette la gomme au moment clé, si je puis dire.
Paul Ackermann.
Mais c'est vrai que cette diplomatie des soubresauts, en fait, nous surprend énormément à chaque fois. Ensuite, dans les effets, le monde n'est pas bouleversé par rapport à il y a un an. Il n'y a pas de guerre mondiale. On est même dans une situation avec la Corée où on n'aurait jamais cru être aussi avancé.
C'est
donc
ça.
Sur le court terme, ça va. sur le long terme, on verra les dégâts que ça fait.
Oui, Florence Antistéban, une nouvelle fois, c'est un coup, mine de rien, on ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire, au départ, on dit, ah, je ne viens pas sur la photo, il y vient, puis finalement, il n'y va pas, il retire sa signature. Tout ça, deux jours avant un sommet historique avec Kim Jong-un. C'est vrai que c'est difficile d'analyser.
Oui, c'est compliqué, mais on est habitué avec Donald Trump maintenant. On commence à avoir un peu de bouteille, je dirais. Mais oui, je retiens effectivement une imprévisibilité qui peut déstabiliser, mais qui est aussi une stratégie du président américain, à l'évidence. Et puis un refus du multilatéralisme aussi, qui en réalité aboutit à annihiler la parole et la confiance que l'on peut accorder à la parole américaine.
Juste une chose aussi, tout de même, Paul Ackerman, est-ce qu'on analyse finalement Donald Trump au niveau international alors qu'il fait de la politique nationale, non, plutôt?
Alors, c'est sûr qu'il a les midterms qui arrivent en fin d'année. Donc ça, en tout cas, pour ce qui est d'incarner le America First et le côté vous avez élu un businessman champion du deal, voilà ce que je vous donne, ce que vous avez élu. Là, il y a un vrai côté en campagne. Et ça va, on va voir aussi cette nuit avec Kim à quoi ça va ressembler.
Oui, Pierre-Jacques, on est aussi là-dedans aussi. Il ne faut pas oublier que l'augmentation, par exemple, des taxes douanières, c'était une promesse de campagne de Donald Trump. Donc on est véritablement dans une politique locale, nationale.
Intérieure, exactement. Intérieure. J'ai l'impression qu'il continue d'imposer l'agenda un peu international en fonction de ses prérogatives, ou en tout cas de ses priorités, de son territoire. Après, moi, quand on lit effectivement le communiqué du G7, on voit bien que effectivement, il n'y a pas énormément de choses qui ont été actées, notamment d'accord sur le climat. On voit bien que Trump et d'ailleurs le Japon ne sont pas du tout d'accord sur la question du conflit iranien, enfin en tout cas de l'arme nucléaire en Iran. Là non plus, il n'y a pas d'accord qui aboutit sur le papier. Donc au final, Trump, il cherche qu'à exister et à s'imposer aux yeux du monde entier, et notamment vis-à-vis de son peuple, les Américains, qui voient en lui quelqu'un qui déjoue les rivalités, qui déjoue aussi la diplomatie telle qu'on l'a connu jusqu'à maintenant.
Alors on va continuer à en parler dans un instant, et notamment sur cette réponse européenne. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur le ferroviaire, une version commune du projet de loi de réforme qui va toucher la SNCF. Le texte devrait donc être définitivement adopté cette semaine. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, s'en est félicitée tout à l'heure, alors qu'environ 200 cheminots manifestaient à Paris à l'appel de Sudrail. C'est justement demain le premier jour du 15e épisode de grève alternée à la SNCF. La direction a communiqué ses prévisions de trafic. 3 TGV transiliens sur 5, 1 TER sur 2, 2 intercités sur 5. La circulation perturbée également sur le RER à Paris, 1 train sur 2 sur les lignes A et C, 1 train sur 2 vers le nord et 2 trains sur 3 vers le sud sur la ligne B. La France reste prudente quant à l'issue du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le président américain et le leader nord-coréen doivent se rencontrer cette nuit dans un hôtel de luxe de Singapour. Une rencontre historique, mais à l'issue très incertaine. Bertrand Cantat ne finira pas sa tournée. L'ex-chanteur de Noir Désir annule les 2 dernières dates de sa première tournée en solo. Annonce faite sur sa page Facebook cet après-midi. L'artiste condamné pour la mort de Marie Trintignant en 2003 parle de raisons personnelles. Hier soir en Belgique, il avait remercié ses fans pour, je cite, « la dernière date de la tournée, la dernière tout court ».
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, donc dans quelques heures, c'est la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump à Singapour, hôtel de luxe. On ne sait pas encore quels cocktails seront servis, mais en attendant, nous, ce qui nous préoccupe, c'est ce qui s'est passé ce week-end déjà avec Donald Trump au sommet du G7. C'était au Canada et Donald Trump a retiré la signature américaine du communiqué final. Et Stéphane Vernet, ce que disait tout à l'heure Emmanuel Macron, c'est pas grave, le principal, c'est qu'on soit tous restés unis et que l'Europe a bien répondu. Est-ce que vraiment l'Europe a bien répondu?
Ben moi, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. En fait, cette histoire, ça peut être une chance pour l'Europe, à condition que les Européens soient capables, effectivement, de serrer les rangs, de s'exprimer d'une seule voix et de faire preuve de rentrer dans une vraie démonstration de force vis-à-vis des États-Unis. Jusqu'à maintenant, on n'y est pas. Ce qui est étonnant dans l'attitude de Trump, c'est qu'effectivement, il met fin au multilatéralisme. Il y a une espèce de vision très isolationniste du pays qui est en rupture totale avec ce qu'on vit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a l'impression qu'il met un point d'honneur à se fâcher avec ses alliés historiques. Parce que quand il va négocier en direct avec Kim Jong-un, finalement il fait la nique aux Japonais, mais comme il a envoyé bouler les Anglais à un moment, il est en train de chambouler tout. on ne sait pas ce qui va sortir de cette chose. Ça peut être une chance pour l'Europe si les Européens sont capables de parler d'une seule voix et de resserrer les rangs. Mais pour l'instant, preuve n'est pas faite qu'on va y arriver. Donc.
Ouais, Paul Ackermann, c'est quoi ? Est-ce qu'il a une vision finalement sur l'Europe, Donald Trump ? Parce qu'on pensait au départ qu'il soutenait, il disait je voudrais plein de Brexit partout. Et puis finalement, les Britanniques, on ne sait pas s'il les soutient ou pas. Est-ce qu'il a vision là-dessus ?
Je crois que c'est divisé pour mieux régner, ouais. On va dire. Là, il a celui qui le caresse beaucoup dans le sens du poil maintenant, c'est Conte, l'Italien, parce que...
président du Conseil italien.
Donc là, on sent qu'on est dans la phase « je cajole », et d'ailleurs, il a réussi à lui tirer un petit truc sur la Russie pour le G7.
Tout à fait.
Donc là, c'est son allié du moment, ce sera celui-là. Il y a 2 mois, c'était Macron... On sent que c'est vraiment effectivement divisé pour mieux régner.
Alors une chose, on a vu justement cette Europe, alors est de plus en plus fragile. Hein, chaque semaine, on apporte un nouveau lot justement pour illustrer cette fragilité. Et aujourd'hui, on a vu un désaccord en Europe concernant le sort de l'Aquarius. Vous savez, ce bateau d'une ONG française avec 629 migrants à son bord, refusé par l'Italie, refusé par Malte. Finalement, l'Espagne a finalement accepté de l'accueillir. Pierre Jacquemin, quand on voit quand même cette situation... Ça, c'est effrayant quand même, quand on voit ce bateau avec 629 personnes bloquées au milieu de la Méditerranée.
Oui, ils sont 30 mineurs, je crois, et 7 femmes enceintes qui sont à bord de l'Aquarius. Vous demandez tout à l'heure à Paul Ackermann, justement, quelle était la vision de Donald Trump sur l'Europe. Il faudrait déjà qu'on soit nous-mêmes en capacité de dire quelle est la vision que l'on veut porter à l'échelle de l'Union européenne. Le fait que l'Union européenne ne soit pas en capacité de répondre à la problématique qui est celle de 600 migrants qui ont été sauvés par des associations humanitaires en Méditerranée est un véritable fiasco. On sait aujourd'hui que l'Union européenne, je crois que c'est une directive du 14 février, comme une belle déclaration d'amour, disait qu'il fallait que les budgets de l'Union européenne soient exclusifs, enfin en tout cas soient renforcés sur le côté de renforcement de sécurité des frontières et sur la question de la défense. Donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a une volonté de créer un mur au sein de l'Union européenne et de ne plus accueillir. C'est un problème qui n'est pas pris à bras le corps parce qu'aujourd'hui on a affaire à quelques milliers de migrants. C'est quand même pas, comme le dit l'actuel ministre de l'Intérieur, une arrivée massive de migrants. Or, d'ici quelques années, 50, voire un siècle, on aura cette problématique qui sera une problématique beaucoup plus importante, qui est la question des migrations climatiques. Donc si on ne sait pas répondre aujourd'hui, ça veut dire qu'on a face à nous des responsables politiques qui ne sont pas à la hauteur. Qui ne sont pas à la hauteur parce qu'ils ne savent pas répondre à une problématique humaine, de mouvements, de mutations, de migrations, qui sont des phénomènes normaux, qui sont des phénomènes qui ont toujours existé. Donc il faut qu'on soit à la hauteur et je déplore que la France n'ait pas été en capacité d'ouvrir le port de Marseille, par exemple, ou de proposer le port de Marseille, qui est une terre d'accueil, une terre d'immigration, qui a construit la France par ses immigrés. Et que la France n'ait pas été à la hauteur de proposer cette solution.
François Orcival.
D'abord, l'Aquarius, ce n'est pas l'Exodus. Je ne sais pas ce que sont les circonstances de ce bateau. D'où il vient, où il a...
bateau, on le connaît. On sait que c'est celui d'une ONG, celui de l'Aquarius.
C'est le bateau d'une ONG.
Oui.
Combien y a-t-il de bateaux de ce genre en Méditerranée ? Deuxièmement, où a-t-il pris ces migrants ? Troisièmement, ces migrants sont-ils légaux ou clandestins ? Probablement clandestins. Et sont-ils des migrants sauvés, réfugiés parce qu'ils étaient au bord du naufrage, à bord de dinghy ou je ne sais quoi, etc., au large des côtes libyennes ou tunisiennes ? Je ne le sais pas non plus. En revanche, ce que je sais, c'est qu'au dernier moment, cet Aquarius dit « je vais débarquer dans un pays qui dit « les gars, maintenant, c'est fini », c'est-à-dire l'Italie.
Malte avant, etc.
C'est-à-dire des pays qui disent « maintenant, c'est fini ». Et effectivement, l'Europe ne sait pas négocier cela. Pourquoi ? Parce qu'à Dublin, elle a pris une disposition qui est le pays d'accueil, c'est le pays qui gère. Et les deux pays d'accueil, qui sont Malte et l'Italie, disent « on ne gère plus ». Alors, heureusement, il y a les socialistes espagnols, parce que bon, ils sont devenus socialistes. Il y a d'ailleurs les Catalans qui sont prêts à les accueillir, qui les accueillent. Mais il y a quand même une chose insupportable. Non, il y a une chose insupportable, c'est que nous avons une politique de raccompagnement à la frontière de tous les clandestins. Et ceux-là, apparemment, ce sont des clandestins.
Bah non, mais ça n'empêche, aujourd'hui, c'est aussi des gens en détresse humanitaire.
Oui, mais je voudrais bien savoir la source, d'où ils viennent et dans quelles circonstances.
Commençons par les accueillir pour étudier les demandes.
Commençons par les accueillir.
Vous êtes face à une situation où vous avez un bateau, l'Aquarius, qui effectivement est en Méditerranée. Comme il y a des avions qui survolent de manière bénévole par des gens qui investissent de l'argent pour les faire en sorte que ces gens-là ne meurent pas en mer. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 7000 en l'espace de 3 ans personnes qui sont mortes en Méditerranée.
C'est tout à fait autre chose.
Et ça ne fait pas honneur à notre pays de laisser ces gens mourir. mourir en Méditerranée. Non, on a des solutions pour les accueillir. Non.
Je veux savoir justement s'ils étaient en danger de mort et où. Apparemment, ce ne sont pas des naufragés de bateaux de passeurs. C'est-à-dire que vous êtes en train de me transformer les ONG en organisations de trafic de migrants.
Ah non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas ça. Florence Dissé, bon, justement, c'est cette situation, quand on voit la Commission européenne qui appelle à un règlement rapide de la situation. On se demande quel est son pouvoir de persuasion, puisque jusqu'à présent, on a vu quand même cette commission dire à l'Italie et à la Grèce, débrouillez-vous un petit peu.
Oui, débrouillez-vous. Et puis, je pense que vraiment, enfin, il faut peut-être quand même en revenir au fait qu'on ne connaît peut-être pas la source, mais vraiment, ce sont des êtres humains qui sont sur ces bateaux, donc sans faire d'angélisme.
On est toujours en face d'êtres humains.
Mais oui, mais toujours, bon, toujours, voilà, toujours. Je dirais, on ne peut pas, la solution, ça ne peut pas être, on ferme les frontières et on renvoie le bateau. Ça ne peut pas être la solution.
Et bien, Paul Ackermann, je voyais tout à l'heure réagir.
Ben, c'est ce qui est intéressant, c'est aussi le lien avec ce qu'on disait avant, c'est que c'est l'Italie qui refuse maintenant, qui fait cavalier seul, comme Trump a pu faire cavalier seul au G7. Et on voit qu'effectivement, que la France n'a pas réagi. On imagine à peine les réactions qu'on aurait eues si c'est le port de Marseille qui avait été ouvert. On voit que l'Europe est en train d'éclater sur ce sujet-là et que l'Italie, qui va être régulièrement mise à ce défi-là, si ça continue comme ça, ça va être vraiment un gros problème.
C'est ça qui est étonnant aussi. C'est vrai, Stéphane Bern, c'est clair. On a deux pays quand même. Hein. Malte, l'Italie, oui, alors, qui finalement refuse.
Je voudrais peut-être préciser deux, trois choses. C'est-à-dire que sur ce bateau, pour l'instant, il n'y a que des réfugiés potentiels. Oui. Ce n'est pas des clandestins. Non. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, effectivement, les débarquer, voir quelle est la situation, si certains sont légitimes à rester en fond fonction du droit des pays qui les accueilleront ou pas. Voilà. Donc pour l'instant, ce sont tous potentiellement des réfugiés. Il faut les aider. Pourquoi est-ce que c'est l'Italie qui est choisie ? Parce que les secours ont été coordonnés à partir de Rome. Donc la règle veut qu'on les débarque en Italie. Sauf que Salvini a dit « j'en veux plus ». Et comme il avait dit au moment de la campagne, il faut que les voisins fassent leur part, dont Malte, il a dit, ils ont qu'à aller à Malte. Et Malte dit, non, les secours ont été coordonnés par l'Italie, il faut qu'ils aillent en Italie. Du coup, personne ne les veut. La France ouvre pas Marseille et on les renvoie vers Valence. Donc j'espère qu'ils seront accueillis et débarqués. Et, puis les Espagnols. Voilà. Après, juste la dernière chose, c'est que on dit sans arrêt l'Europe ne fait rien, laisse les États. Mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que le problème d'immigration, il ne pourra être résolu en Europe que via l'Europe. Il faut que l'Europe s'empare du dossier. Elle ne peut pas le faire parce que jusqu'à maintenant, si on n'a pas défini une politique migratoire en Europe, c'est parce que les États eux-mêmes ont dit.
Alors,
la politique migratoire, ce sont les États.
On va en parler dans un instant. Je salue juste Paul Ackermann. Je vous libère. Merci beaucoup d'être passé ce soir, nous avoir éclairé, en tout cas sur ce sommet qui arrivera cette nuit entre Donald Trump et Kim Jong-un. L'info à 20h20. C'est pas du tout Stéphane Milhomme. Non, c'est un réflexe. C'est Pierre-Yves Bonneau.
L'accalmie n'est pas prévue avant mercredi. Les orages continuent de toucher une bonne partie du pays ce soir. Plus du tiers des départements français, 38 au total, sont toujours placés en alerte par Météo France. Orages qui provoquent des inondations, notamment dans le nord-ouest du pays. Rien qu'en Loire-Atlantique, les pompiers sont intervenus plus de 760 fois aujourd'hui. 600 foyers étaient privés d'électricité à 18h, selon nos confrères de France Bleu Loire-Océan. Des pluies diluviennes avec probablement un record de précipitations en 24 heures à la clé. Les cumuls de précipitations devraient dépasser les 60 mm dans le département. La circulation des trains est très perturbée dans la région Pays de la Loire. Ils protestent contre l'importation de produits agricoles non conformes aux normes françaises. Les agriculteurs s'apprêtent à passer la nuit sur les barrages qui bloquent 16 dépôts de carburant et raffineries en France. Déterminés à se relayer jusqu'à mercredi, malgré une réunion avec le ministre de l'Agriculture demain, les agriculteurs qui bloquaient le site de la Mède dans les Bouches-du-Rhône, symbole de leur lutte, ont levé le barrage ce midi. L'Espagne accepte d'accueillir l'Aquarius, mais le bateau n'a pas bougé d'un mille nautique ce soir. Ce navire humanitaire transportant les 630 migrants secourus au large de la Libye va pouvoir accoster à Valence. Il est depuis hier en attente de pouvoir accoster au large de Malte, qui a refusé, tout comme l'Italie, de l'accueillir. Le président Macron recevra vendredi à Paris le nouveau président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Les deux hommes parleront notamment d'immigration.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore un mot à propos de ce bateau, justement Aquarius. Donc l'Espagne a accepté finalement d'accueillir qu'il accoste. Pour l'instant, il n'a pas bougé après le refus de l'Italie et de Malte. Pierre Jacquemin, est-ce qu'il y a quand même finalement une sorte d'association ? C'est la première fois, en effet, où deux pays refusent officiellement d'accueillir. On voit donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il pourrait très bien y avoir même deux blocs, et même la France, aujourd'hui, la France a été quand même muette totalement sur ce sujet.
On a beaucoup essayé d'analyser le nouveau mouvement, la nouvelle coalition qui s'est mise en place en Italie entre la droite et l'extrême droite. On a assez peu fait le rapprochement entre justement l'accord de coalition, justement sur la question migratoire, entre ce qui s'est passé en France, la loi asile-immigration, et l'accord de coalition sur le projet de cette nouvelle coalition sur la question migratoire. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un côté, ça suffit, et c'est vrai que l'Italie a quand même suffisamment pris sa part sur la question de l'accueil des migrants, et donc le problème italien doit inquiéter justement l'ensemble de l'Europe. Je ne déresponsabilise pas le choix des Italiens, bien au contraire, mais ça doit poser la question à l'ensemble des pays d'Europe de se dire, ça n'est pas possible que ce soit que l'Italie et que la Grèce qui accueillent les migrants. On est un continent presque, on est une Union européenne, on doit être solidaire. Et l'Europe, si on veut justement reconquérir l'opinion publique sur la question européenne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, qui est une question uniquement financière, de dérégulation économique, de paupérisation des peuples, il faut que ce soit une Europe plus solidaire, plus humaine, plus citoyenne. Et je pense que, justement, Emmanuel Macron aurait tout intérêt à défendre cette idée, ce qu'il avait défendu d'ailleurs lorsque Angela Merkel a accueilli 1 million de migrants.
Stéphane Vernet.
Oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, les États eux-mêmes ont décidé que les questions migratoires, ça devait être de leur ressort. Donc chacun veut faire sa politique. Du coup, l'Europe fait ce qu'elle peut dans le cadre qui lui est assigné par les États eux-mêmes. Et du coup, en fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est la règle dite des Dublinés, c'est-à-dire que, en fait, on prend le premier point d'entrée dans l'Union européenne en disant, les migrants, s'ils arrivent en Italie, ils doivent quelque part rester en Italie. S'ils arrivent en Espagne, ils seront gérés par l'Espagne. Ben oui. Et s'ils veulent voyager, se déplacer, une fois qui se font serrer, entre guillemets, et qui sont pas en situation légale, on les renvoie dans le premier pays. Donc, s'ils rentrent tous par la Grèce, s'ils rentrent tous par l'Italie, effectivement, il y a une embolie. Moi, je comprends aussi l'attitude des Italiens. Ils veulent faire passer un message fort. Je trouve que la manière dont ils font passer est beaucoup trop forte. Parce que je sais pas si vous avez vu ça, mais Salvini dit carrément.
Le ministre de l'Intérieur.
Oui, vice-président du Conseil italien, dit, moi, je considère que l'association en question fait du trafic d'êtres humains. Et s'ils accostent en Italie, on mettra le bateau sous séquestre et on poursuivra les membres de l'ONG. Il fait passer son message, hein, mais d'une manière qui est.
Pourquoi faire ? Parce qu'on sait très bien que c'est un. Non, mais alors c'est terrible à dire, mais c'est ce que vous disiez.
C'est un mouvement
aujourd'hui, on voit qui est très difficile et qui est presque inéluctable. Donc ça veut dire qu'à un moment, on refuse en permanence, on ferme en effet ses frontières, on revient à ça. Alors, et à ce moment-là, il n'y a plus de notion d'accueil, parce qu'il est vrai que l'origine du mouvement, quand même, du vote italien pour la Ligue et 5 étoiles, on sait dans le Sud, a été véritablement parce que l'Europe n'avait pas pris sa part d'accueil et d'aide pour l'Italie.
Mais c'est la réponse à Pierre Jacquemin. Quand vous dites à chacun de prendre votre part de migrant, moi je réponds, si c'est ça, à chacun de prendre votre part de populiste. Et vous n'aurez pas les populistes. Mais c'est exactement la réaction.
C'est précisément le fait qu'on n'accueille pas qu'il y a des populismes qui émergent aujourd'hui.
Mais Jean-Mathieu Bernin a raison quand il vous dit les Italiens, pourquoi ont-ils voté dans le Sud et notamment à Palerme, etc. Pourquoi la Ligue du Nord est-elle devenue la Ligue du Sud ?
Vous avez un Sud en Italie
parce que c'est un immense camp de réfugiés. Donc, vous avez de plus en plus de réfugiés, aurez de plus en plus de populistes.
Florence Antistémon.
Oui, non, alors peut-être sur la définition de populiste, je peux pas être d'accord avec vous, parce que le clivage s'opère pas en réalité sur la question migratoire. Ça s'opère sur la dialectique entre le peuple et les élites.
Dites-nous c'est sur
le,
quoi
bah, sur la dialectique.
Mais les élites, elles disent ce que dit Pierre Jacquemin.
Ah, non, pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit des élites, c'était pas forcément ça. Vous parlez au niveau économique, en fait, c'est ça, surtout.
François Dorcival nous explique que la dialectique populiste s'organise autour de la question migratoire. Ce n'est pas le cas.
Identitaire.
C'est une question politique qui n'est pas proprement migratoire et qui est un clivage en réalité, qui est un clivage entre la contestation des élites d'une part et le peuple. Donc ça n'a rien à voir.
Sauf que vous employez des mots différents des miens, mais ça revient au même. Les élites, c'est tout simplement ceux qui sont chassés du pouvoir. C'est le fameux dégagisme. Et ce dégagisme, il se joue sur l'identité et les migrants. Si vous le croyez pas. Continuons, vous les aurez.
Mais par exemple, ce qu'on a pu voir en France là sur Emmanuel Macron, c'est pas du tout ça qui a joué, par exemple. C'est pas sur les migrants. On a pu voir Emmanuel Macron sur le dégagisme. Je pense pas que les gens aient voté aujourd'hui Emmanuel Macron au premier tour à 24% par rapport aux migrants. François Dorcival.
Écoutez, nous verrons pour le moment ce que je constate, c'est que en matière de d'accueil de migrants, il est d'une prudence de chat, notre président de la République.
Eh bien, on verra en tout cas ce qu'il en est, comme s'il recevra le président du Conseil italien vendredi. Donc, bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet dans un instant. Nous, on viendra également sur des sujets comme l'agriculture, d'économie, de conserve, enfin bref, beaucoup de choses en ce début de semaine. Voilà la suite pour les informés de France Info.
La première fois qu'on lui a proposé le badge télépéage Vinci Autoroute, Vincent a dit « Ah ça non, trop peu pour moi, je n'aime pas m'engager, puis je prends pas l'autoroute assez régulièrement. » Ce à quoi on lui a répondu « Avec le badge Vinci Autoroute et la formule temps libre, c'est sans engagement et les mois où vous ne roulez pas, eh bien, vous ne payez pas. Et quand vous payez, le paiement est différé jusqu'à 45 jours. » Alors Vincent a eu cette phrase historique, il a dit « Si c'est comme ça, je veux bien. »
Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client sur vinciautoroute.com.
Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux.
France Info. France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore perturbé ce soir et cette nuit, ça reste très pluvieux et orageux du nord-ouest vers la région parisienne, les frontières du nord et sur le nord-est. De bonnes pluies aussi pour le sud-ouest. Prudence, les sols sont saturés, des crues et des inondations sont à craindre. Demain, les régions voisines de la Manche verront une amélioration avec de belles éclaircies. Des éclaircies aussi pour le littoral de la Côte d'Azur et la Corse. Ailleurs, en revanche, les nuages resteront très nombreux avec des pluies. Il pleuvra bien le matin sur le sud-ouest, Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, la région parisienne, Champagne-Ardenne et la Lorraine. L'après-midi, les pluies les plus marquées concerneront le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon. Ça deviendra orageux sur le massif central et les Alpes. Côté thermomètre, souvent 12 à 18 degrés le matin. L'après-midi, 18 degrés à Cherbourg, 19 à Paris, 20 degrés à Lille et Toulouse, 22 à Strasbourg, à Cognac, 24 à Lyon. Il fera 26 degrés à Montpellier et 27 à Toulon.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Julie Simule, bonsoir.
Bonsoir, on vient de l'apprendre. La mère des deux petites filles retrouvées mortes hier près de Lyon, à Limonest, est placée ce soir en garde à vue, Christophe Vincent.
Oui, après le père interrogé hier soir, la mère a été entendue par les gendarmes à l'hôpital, là où elle avait été conduite hier soir en état de choc. En fin d'après-midi, les enquêteurs de la section de recherche ont disposé de charges suffisantes pour la placer en garde à vue dans l'enceinte de l'hôpital où son audition se poursuit actuellement. Par ailleurs, on attendait beaucoup de l'autopsie des deux corps pratiquée aujourd'hui. Cette autopsie n'a pas apporté d'éléments suffisamment précis sur les circonstances de la mort des deux sœurs. Les enquêteurs ont donc demandé de procéder à des examens toxicologiques qui seront pratiqués dans la soirée ou peut-être demain matin. Voilà donc la thèse du drame familial semble de plus en plus précise ici à Limonest.
Les précisions de Christophe Vincent pour France Info. Les agriculteurs vont passer la nuit devant les 16 raffineries et dépôts de carburant qu'ils bloquent. Opération coup de poing des syndicats pour dénoncer la concurrence déloyale qu'ils subissent, des normes qu'on leur impose, normes auxquelles ne sont pas soumis certains produits importés comme l'huile de palme. Les agriculteurs ont rendez-vous demain après-midi avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert. La Loire-Atlantique sous l'eau, des routes et des caves inondées à cause des fortes pluies. Probablement un record de précipitations battu aujourd'hui. Plus de 760 interventions des pompiers. Le trafic des trains est très compliqué ce soir sur l'axe Nantes-Saint-Nazaire et Nantes-Angers-Le Mans. En tout, ce sont 38 départements qui sont placés en vigilance orange par Météo France. Un accord trouvé en moins d'une heure aujourd'hui entre députés et sénateurs sur la réforme de la SNCF. Un texte commun qui devrait être maintenant adopté à l'Assemblée mercredi puis au Sénat jeudi. Toujours pour demander le retrait de cette réforme. réforme, la grève des cheminots reprend demain. Au programme en circulation, 3 TGV et 3 Transiliens sur 5, 1 TER sur 2 et 2 Intercités sur 5. Des fromages de chèvre peut être contaminés au salmonelle. La fromagerie d'Anjouin dans l'Indre rappelle 7 lots. Près de 33 000 fromages AOP sel sur chair vendus principalement chez Auchan dans des supermarchés de la région parisienne et du centre Val-de-Loire. Un champion du monde 98, Patrick Vieira, nouvel entraîneur de l'OGC Nice, officiellement présenté à la presse aujourd'hui, engagé pour 3 ans, il fera ses débuts avec les Aiglons le samedi 11 août face à Reims pour la première journée de Ligue 1. Et puis dernier préparatif à Singapour, la rencontre historique Corée du Nord États-Unis, ce sera à 3h du matin heure française. Là il est 20h33, on retrouve Jean-Mathieu Pernin pour la suite des informés.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est frétillant, voilà, dans le bassin de l'actualité, qu'ils se motivent pour les informés de France Info. Et ce soir, autour de la table, nous trouvons Stéphane Vernet de West France, Flore Santisteban, pardon, maître de conférence à Sciences Po et membre du CEVIPOF, également Pierre Jacquemin de la revue Regard et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Alors, vous le savez, depuis plus d'un an, nous sommes passés dans la quatrième dimension de l'information. Tous nos repères sont totalement chamboulés, on n'y comprend plus rien. Ainsi, ce matin, sur les réseaux sociaux, Yannick Jadot, député européen écologiste, a défendu le syndicat agricole FNSEA. Voilà, c'est un peu comme si un arbre disait à un bûcheron, tu me fais un bisou, s'il te plaît. Voilà, pourquoi ce soutien? Parce que la FNSEA bloque depuis hier soir des raffineries. D'ailleurs, ce soir, ils dorment encore devant pour dénoncer l'importation par Total de 300 000 tonnes d'huile de palme pour la raffinerie de biocarburant Total de la Med. C'est dans les Bouches-du-Rhône qui doit démarrer cet été. Les agriculteurs estiment que ces importations sont déloyales et risquent de remettre en cause la filière colza en France, majoritaire pour le biocarburant. Et là est vraiment le souci pour David Chauvy, le président FNSEA 63.
Ce qu'on dénonce, c'est l'incohérence qu'on a entre le discours gouvernemental pendant un an à nous dire il faut une agriculture qui fasse mieux, qui crée de la valeur, qui partage de la valeur, et puis dans le même temps, on se retrouve avec le même gouvernement, les mêmes personnes qui sont en train d'ouvrir à tout va des importations des quatre coins de la planète, et souvent sur des conditions de production diamétralement opposées à ce que nous, on nous impose aujourd'hui en France ou en Europe.
Voilà, donc ça c'était donc David Chauvillet, président de la FNSEA 63. Alors forcément, quand on entend ça, Flore Santisteban, on se dit, bah alors tout le monde est réconcilié, écologiste, FNSEA, tout le monde ensemble.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un front uni en tout cas contre cette décision.
Parce que la FNSEA évoque une hypocrisie du gouvernement. Ils disent en même temps, on se fait super écolo à l'international, et là de nouveau l'huile de palme qui est très critiquée. En effet.
Oui, elle est critiquée parce que si vous voulez, il y a deux enjeux sur ce sujet. Il y a un enjeu écologique évident, et puis un enjeu économique. Sur l'enjeu écologique, franchement, ce biocarburant qui n'en est pas un, hein, puisqu'il faut cesser d'utiliser cette expression, elle est impropre, est 3 fois plus polluante que le diesel fossile.
Donc, d'accord.
Si vous voulez, on s'interroge quand même sur son utilité, surtout son empreinte carbone. Déforestation également, 10% de la déforestation est responsable pour 10% des enjeux liés au climat et en particulier à l'effet de serre.
Oui.
Donc c'est un vrai problème. On comprend pas, c'est le en même temps d'une certaine façon. On comprend pas pourquoi d'un côté, on comprend. La ligne est toujours la même. Le glyphosate est en réalité pas interdit. L'huile de palme dont on connaît la dangerosité est maintenant en réalité totalement autorisée dans notre pays. Et puis, je vous dis, cet enjeu économique qui est quand même assez assez majeur, puisque la filière du colza risque concrètement de pâtir de cette décision.
Alors en effet, Stéphane Vernet, c'est ce que disent ça, les agriculteurs et la FNSEA, mais c'est vrai que ça paraît étonnant quand on entend ce discours, parce que généralement sur l'huile de palme, c'est davantage les associations écologiques, voire Europe Écologie Les Verts qui les soutient. Là, d'un coup, c'est quoi? C'est pour pas des préoccupations écologiques qui les animent?
Non, du tout. Mais voilà, c'est vraiment un tour de force. Moi, je dis, ce gouvernement est extraordinaire. En fait, Emmanuel Macron a complètement balayé le clivage gauche-droite, et là, il fait la démonstration qu'il a été capable de balayer le clivage FNSEA,
écolo,
Europe Écologie Les Verts.
Exactement. Ça y est. Donc elle arrive.
C'est un tour de force. Et en plus, il arrive par le truchement de Nicolas Hulot, ce qui est quand même
qui a autorisé. En effet, c'est lui qui a autorisé.
Après, moi, ce que je comprends, c'est dans le discours, c'est de dire oui, mais en fait, c'est une décision qui avait été prise en 2015, de dire que cette raffinerie de Total qui a besoin d'huile de palme qui est beaucoup moins chère que le colza français, ils ont fait tous leurs calculs pour faire tourner leur raffinerie sur la base de cet engagement, ils ont investi, il y a 450 emplois. Bon, ok, je veux bien. Je sais que Total, en plus, n'est pas en forme au niveau français. Il y a la perspective du marché iranien où ils avaient beaucoup misé, où ils ne sont pas sûrs de rester. Bon, voilà, il y a des impératifs économiques. Le problème, c'est que dans la tête des gens, l'idée, ça va être de se dire, bah oui, c'est les lobbies, c'est le lobby pétrochimique qui gagne, quoi. Et je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. D'un point de vue environnemental, tout le monde sait que l'huile de palme, c'est une catastrophe. Il ne faut surtout pas l'utiliser pour faire des agrocarburants.
Quelques chiffres. En effet, la production d'huile de palme a fait partir en fumée quelques 9 millions d'hectares de forêts en Asie du Sud-Est entre 1990 et 2010. François Lorcival, c'est vrai que c'est marrant comme ce mot est revenu d'un coup, lobby, comme quand on parlait du glyphosate, quand on parle de nouveau de l'huile de palme. Oui, ça veut dire que là, ils sont véritablement en action sans qu'on soit dans une théorie du complot autour du lobby.
Oui, c'est vrai. Mais il y a 3 mois, les agriculteurs quand même protestaient contre quoi ? Contre l'interdiction du glyphosate.
Tout à fait.
Ils ont besoin du glyphosate pour leur propre production, tant qu'on n'a pas trouvé de substitution. Et là c'est bien plus amusant parce que c'est le colza français. Français. Donc, tout est bon pour que ça fonctionne, quoi. Ouais. On défend les Français, on défend les agriculteurs, on défend le colza français. Cela dit, le conflit, il est là. Est-ce qu'il va durer longtemps ? Est-ce qu'ils vont bloquer longtemps ? Moi, je ne le crois pas. Alors, en revanche, ils vont se voir demain et ils vont débloquer ça.
Oui, en effet. Oui, Pierre-Jacquin.
D'abord, juste pour rappeler quand même pour qu'il y ait blocage, c'est qu'il y a eu un blocage en amont. Il faut quand même rappeler que la méthode utilisée par le gouvernement est quand même encore problématique. C'est vraiment une démonstration supplémentaire que le dialogue social n'est vraiment pas le fort de ce gouvernement parce que la décision a été prise, donnée aux agriculteurs et donc aujourd'hui, ils prennent la mesure de ce qui va se passer. Il faut quand même rappeler que l'enjeu aussi pour la France, parce que l'Europe prévoit d'interdire d'ici à 2021, l'huile de palme. On sait aussi que la France joue à essayer de repousser l'échéance parce qu'elle-même a des enjeux dans des territoires très importants qui sont la Malaisie et l'Indonésie où on va importer l'huile de palme. Or, qu'est-ce qui se passe entre la France et la Malaisie et l'Indonésie ? On a des enjeux d'équipement militaire qui sont des enjeux colossaux. Je crois qu'il y a 18 avions qui sont en négociation avec ces pays-là. Donc, si la France venait à renoncer à l'importation de cette huile, sans doute, de l'autre côté,
il y aura des contrats en moins, en effet, militaires.
Sans doute, c'est ça qui se joue. Et c'est un problème, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron se vante d'être le meilleur écolo de la planète entière, et qu'on voit bien que entre le glyphosate aujourd'hui, l'huile de palme aujourd'hui, on a un problème, et sans parler des accords de libre-échange avec le Canada et le Mercosur.
Florence, on dit, c'est bon.
Oui, on a l'impression que la menace est payante, d'une certaine façon. Et on a l'impression que, puis on peut parler de... On parlait au début de l'émission de Trump, mais c'est le cas avec le dirigeant nord-coréen. C'est-à-dire, voilà, et c'est encore le cas cette fois-ci, c'est-à-dire que l'Indonésie et la Malaisie menace la France de ne pas conclure certains contrats d'armement. Voilà.
Si on n'achète pas, en effet, l'huile de palme.
Ça, c'est le commerce mondial.
Oui.
C'est le commerce mondial. C'est pas une découverte.
Allez, dans un instant, on parlera justement d'économie. Et juste pour vous rappeler, si l'huile de palme, c'est pas quelque chose de très clair, souvenez-vous, en 2015, il y avait eu une affaire avec Ségolène Royal et c'était le Nutella à l'époque, puisque dans le Nutella, il y avait l'huile de palme qui avait provoqué vraiment un problème diplomatique entre la France et l'Italie. La ministre de l'écologie avait dû renoncer, finalement, à ses propos. Donc voilà, l'huile de palme revient souvent sur le devant de l'actualité. Allez, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
La mère des deux petites filles retrouvées mortes hier soir dans une caserne de gendarmerie du Rhône, placée en garde à vue ce soir, elle est auditionnée à l'hôpital où elle a été admise en état de choc. La cause de la mort des deux enfants n'est pas connue. Cette femme dit avoir découvert ses deux filles en arrêt cardio-respiratoire dans leur chambre. À la veille de son sommet avec Donald Trump, Kim Jong-un s'est accordé une petite sortie nocturne à Singapour tout à l'heure. Le leader nord-coréen a notamment visité un jardin botanique ultra moderne sur la baie de Singapour. Les deux hommes ont rendez-vous cette nuit dans un palace luxueux de la ville pour une rencontre historique, mais au résultat très incertain. 3 TGV transiliens sur 5, un TER sur 2, 2 intercités sur 5. Prévision de trafic à la SNCF pour la journée de demain. Premier jour du 15e épisode de la grève alternée au sein de la compagnie ferroviaire en Ile-de-France. Comptez un train sur deux sur la ligne A du RER, sur la ligne B, un train sur deux vers le nord, 3 trains sur 4 vers le sud, un train sur deux enfin sur la ligne C. Les orages continuent de toucher une bonne partie du pays. Plus du tiers des départements français, 38 au total, sont toujours placés en alerte par Météo France. L'accalmie n'est pas prévue avant mercredi, des orages qui provoquent des inondations, notamment dans le nord-ouest du pays et le sud-est. We'll be right back.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. C'est étonnant tout de même, toutes ces notes confidentielles qui n'avaient pas vocation à sortir et qui finissent publiées dans la presse. C'est dingue quand même, hein. Mais comment ça se fait? Alors, soit les journalistes sont doués pour la télékinésie et nuls, n'est à l'abri d'une confidence, puisqu'on obligerait malgré eux les auteurs de notes confidentielles à nous les donner, ou alors... C'est comme ça, certains agiraient pour faire passer des messages. Mais alors ça, c'est pas du tout Nouveau Monde, donc ça m'étonnerait. En tout cas, samedi, le journal Le Monde publiait une note signée Philippe Aguillon, Philippe Martin et Jean Pisani-Ferry, trois économistes proches d'Emmanuel Macron, reprochant au président de la République, je cite, « l'image d'un pouvoir indifférent à la question sociale ». Les trois auteurs suggèrent donc au président de présenter des objectifs concrets en matière de sous-emploi des jeunes, sortie du chômage de longue durée et ouverture de postes responsabilité. Ils affirment ainsi qu'il ne faut pas réduire la prime d'activité. Et ben ça tombe bien, puisque c'est exactement ce qu'on fait, ah ces économistes quand même, le porte-parole de La République En Marche, Gabriel Attal.
Les réformes qu'on a menées, elles sont profondément structurelles. Ce qui est sûr, c'est qu'elles bousculent un système, une habitude qu'on avait, une logique qu'on avait sur le modèle social. On considère que le modèle social, c'est pas uniquement des aides sociales, financières, c'est des aides sociales, mais c'est pas uniquement de la redistribution financière, c'est aussi de la redistribution d'opportunités.
Le porte-parole de La République En Marche, Gabriel Attal, hier sur RTL. Stéphane Vernet, c'est surprenant cette note. Enfin, d'ailleurs, on comprend pas trop, hein, d'ailleurs, comment s'explique Gabriel Attal. Mais est-ce que c'est surprenant cette note de ces trois économistes proches, hein, quand même, qui ont fait d'ailleurs aussi le programme économique d'Emmanuel Macron?
Oui, donc c'est des très proches. Et donc là, du coup, c'est un petit peu gênant. Alors, la question, c'est de savoir lequel des trois a fait fuiter la note.
Exactement.
Je ne sais pas. Parce que les fuites, c'est jamais par hasard, en fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui a oublié de fermer un robinet. Non.
Il paraît que ça sert toujours quelqu'un, voilà, en effet.
Voilà. Mais on a vu que c'était une méthode qui avait été utilisée dernièrement sans grand succès. Je pense notamment au plan Borloo sur les banlieues qui a fuité lui aussi. Et il n'est pas resté grand-chose à l'arrivée. Donc voilà, quel est l'objet, quelle est l'idée? Est-ce que c'est de forcer la main à Emmanuel Macron? Ça intervient dans un contexte où effectivement vous avez, d'après ce que j'en comprends, un certain nombre de gens dans son entourage qui trouvent que le volet protégé tarde à venir ou n'est pas clair ou insuffisant. C'est ce que disent d'ailleurs les économistes. Et ce que vient de dire Gabriel Attal dans l'extrait que vous avez passé, c'est que, alors c'est un peu difficile à décrypter, c'est très novlangue, mais il faut revenir à la base, c'est-à-dire que En Marche, Emmanuel Macron et son entourage, ils sont persuadés qu'en fait la première des injustices sociales en France, c'est le fait de pas pouvoir accéder à l'emploi. Et il a remis au centre du jeu la valeur travail. Et donc dans toute l'idée de libérer, il y a le libérer l'économie, c'est aussi relancer l'emploi. Et ils partent du principe, et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je pense que c'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils partent du principe que si on arrive à créer des emplois et à remettre des gens dans le chemin de l'emploi, on résoudra le problème de l'inégalité. Et donc, eux considèrent que le volet social, ils l'ont traité et ils le négligent pas du tout. Sauf que dans la perception du grand public, ça fonctionne pas.
Pierre Jacquemin, quand on voit en effet ces trois économistes hein, qui sont très proches d'Emmanuel Macron, quand ils demandent une inflexion sociale, est-ce qu'à votre avis, ça peut faire réfléchir le président de la République ou aujourd'hui, il s'est dit, bon, bah, c'est des gens qui ont fait mon programme, ça y est, c'est fait, quoi.
J'espère que ça le fait un peu réfléchir. Visiblement, il a demandé à ces trois économistes de lui proposer des solutions. Mais les solutions, elles n'existent pas qu'à travers les notes des intellectuels, même si elles sont nécessaires. Il faut toujours aller voir du côté des universitaires, des intellectuels. Mais il y a aussi des partenaires sociaux, des syndicats, des associations de chômeurs, des associations de précaires qui sont là aussi, qui peuvent faire des propositions. Emmanuel Macron est très attaché justement à savoir comment ça se passe en bas. Il l'avait dit d'ailleurs pendant les événements des banlieues qu'il était un homme blanc et que donc du coup, il ne pouvait pas décider pour les gens des banlieues. Et alors, s'il ne peut pas décider pour les gens des banlieues, mais qu'il laisse les gens des banlieues décider pour leur sort de ce qu'ils doivent bénéficier au titre de l'État. Idem pour les chômeurs, idem pour les gens les plus précaires. Par ailleurs, on sait très bien qu'avec Emmanuel Macron, on est dans une philosophie de l'individu. Ça veut dire que l'individu, il est responsable de sa situation. Et donc, à partir de là, il va penser la question sociale. Et la question sociale, pour lui, si un individu ne s'en sort pas, c'est qu'il n'a rien à faire dans ce pays, ou en tout cas, c'est qu'il n'a pas à être aidé par le collectif, par la solidarité. Il l'a dit lui-même, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien, ils sont rien parce qu'ils n'ont envie de n'être rien. Or, je pense que le système social, qui est le système social français, prend en charge l'émancipation collective, pas l'émancipation individuelle, par l'émancipation collective, puisque le terme émancipation est très approprié par
le président. Oui, François Orcival.
Oui, et ça se résume avec la fameuse jambe droite et la fameuse jambe gauche. Donc la jambe droite économise, la jambe gauche dépense. Le problème de la dépense sociale...
Ça dépend de quel point de vue, voilà.
C'est une manière générale.
C'est un peu valeur actuelle.
Mais non, mais quand vous relisez leur truc, c'est quoi? Il faut effectivement dépenser et dépenser autrement, mais dépenser plus, etc. Or, aujourd'hui, et c'est aussi une réponse d'Emmanuel Macron et de son entourage, c'est de dire, attendez, aujourd'hui, le budget social de la nation, c'est quoi ? 700 milliards. Et en même temps, vous vous plaignez d'avoir 7 millions de pauvres. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Mmh. Vous voulez qu'on augmente encore les dépenses sociales, est-ce qu'on va encore augmenter le nombre de pauvres ? Voilà, il tombe là-dessus. Et à partir de là, il peut y avoir des raisonnements.
Pour que le président de la République, puisque c'est une note qui lui a été demandée.
Les trois intellectuels, qui étaient d'ailleurs chez Hollande il y a quatre ans, ces trois intellectuels, en gros, ils vous disent, il faut dépenser encore.
Non, c'est pas dépenser. C'est pas forcément. C'est se soucier, par exemple, quand on parle, quand on dit aussi...
François Hollande, quand il fait le pacte de compétitivité, le CICE, c'est 48 milliards, je crois, d'euros, avec normalement des contreparties. François Hollande n'avait pas demandé de contreparties aux chefs d'entreprise. Vous vous souvenez du président du MEDEF à l'époque qui avait dit « Vous me donnez ça, je vous fais 1 million d'emplois ». Ils y sont pas, les 1 million d'emplois. Sous le quinquennat de François Hollande, ça a été 250 000 emplois créés,
Surtout 600 000,
ça fait cher l'emploi créé, alors que de l'autre côté, on supprimait les emplois aidés. Oui. Donc à un moment donné, ce n'est pas que de l'investissement, ce n'est pas que de la dépense publique, c'est aussi des contreparties, vu qu'on a libéré le travail, comme on a donné de gages aux entreprises. Aujourd'hui, on est en attente, on est en droit d'attendre des entreprises, d'augmenter les salaires et deux, de créer des emplois. De faire de l'investissement.
Dites-le. Très bien. Ça c'est la liberté de l'économie, du marché, la création d'emplois, etc. Ce qui n'est pas possible, c'est quoi ? C'est que vous disiez, on ne peut pas étudier les 700 milliards d'aides sociales qu'il y a dans ce pays. On ne peut pas ni les étudier, ni le décrypter, ni l'analyser. C'est différent.
Alors, Florence Nistéban, est-ce qu'on est là aussi quand même dans un fossé qui grandit au sein finalement de cette majorité entre le côté droit, le côté gauche? On le voit sur différents sujets. De plus en plus, on sent qu'il y a du mal et il faudrait créer quelque chose pour eux qui puisse les réunir tous. Est-ce que c'est aussi pour ça que ces trois économistes ont proposé ces solutions-là à Emmanuel Macron?
Écoutez, c'est la limite de la fin du clivage. Puis c'est quand même concomitant avec la sortie du baromètre Elabe. Je ne sais pas si vous avez vu
Quel est-il, ce baromètre?
Le baromètre nous informe et nous explique que 40% des Français continuent à soutenir l'action du chef de l'État. Oui. Donc son socle de confiance, disons, est assez stable. En revanche, il perd 5 points en un mois dans l'électorat de gauche et il perd 12 points chez les socialistes et les radicaux.
Donc c'est pour ça qu'il faut à un moment aussi
C'est à ce moment-là qu'il est obligé de récupérer l'électorat de droite.
Ah, vous pensez que c'est ça qui l'oblige à récupérer l'électorat de droite?
Évidemment.
C'est terrible. Stéphane Bernier, on est véritablement là-dedans. Ça veut dire aujourd'hui essayer de récupérer cet électorat aussi de gauche pour faire le fameux et de droite et de gauche.
Non, ce qui est sûr, c'est que la recomposition politique ou la décomposition politique du pays, elle n'est pas terminée, elle est toujours en cours. Ouais. Et peut-être que les choses vont se structurer ou s'organiser au moment des européennes. Donc il va y avoir encore des surprises. Après, on dit qu'il y a un certain nombre de députés en marche qui trouvent qu'effectivement ils en ont marre que la jambe gauche d'en marche soit une jambe de bois et qui voudraient se lancer dans une fronde. Moi j'attends de voir parce qu'on nous dit ils sont 20, ils sont 30, sauf qu'il n'y a aucun nom, on ne sait pas qui. Et surtout s'ils décident de se désolidariser, mais qu'est-ce qu'ils vont, pour aller où, pour faire quoi? Est-ce que vous pensez que les socialistes vont les réintégrer avec bonheur? Est-ce qu'ils vont aller siéger à la France insoumise? Est-ce que vous pensez que les républicains vont les accueillir? Moi je ne crois pas. Donc pour l'instant en fait on est encore dans un tempo où je pense pas qu'on va assister à l'émergence d'une vraie fronde.
Allez, on va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Ils protestent contre l'importation de produits agricoles non conformes aux normes françaises. Les agriculteurs s'apprêtent à passer la nuit sur les barrages qui bloquent 16 dépôts de carburant et raffineries en France, déterminés à se relayer jusqu'à mercredi, malgré une réunion avec le ministre de l'Agriculture prévue demain. Les agriculteurs qui bloquaient le site de la MED dans les Bouches-du-Rhône, symbole de leur lutte, ont levé le barrage ce midi. Il était déjà mis en cause dans l'enquête sur les attentats de Bruxelles. Un nouveau suspect mis en examen par la justice française pour des faits de terrorisme dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Cet homme de nationalité suédoise est notamment mis en cause pour complicité et participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. L'Espagne est d'accord pour accueillir l'Aquarius dans son port de Valence. Le navire affrété par SOS Méditerranée avec 630 migrants secourus au large de la Libye à son bord. Madrid met ainsi un terme au bras de fer qui opposait l'Italie et Malte, deux pays qui refusaient de voir le bateau accoster sur leur côte. Et puis la France reste prudente quant à l'issue du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le président américain et le leader nord-coréen doivent se rencontrer cette nuit dans un hôtel de luxe de Singapour. Une rencontre historique, mais à l'issue très incertaine. En déplacement à Stockholm, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est montré très réservé. Il souligne la nécessité d'une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous reste un peu de temps pour parler d'une polémique qui a déjà eu lieu un nombre de fois, mais cette fois-ci elle continue et elle commence tôt puisque c'est un concert qui aura lieu à l'automne prochain mais qui anime déjà toutes les passions. C'est le rappeur Medine qui doit se produire deux soirs au Bataclan et qui fait l'objet d'une campagne de dénonciation sur les réseaux sociaux. En cause son titre Don't Like, où il envoyait, je cite, les laïcars se faire crucifier. Une chanson sortie une semaine avant l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Polémique puisque le rappeur se produira au Bataclan où 90 personnes, bien sûr, avaient été assassinées par des terroristes le 13 novembre 2015. Depuis, Medine s'était expliqué, parlait de provocations un peu trop prononcées et avait écrit un titre intitulé même Bataclan où il avait toujours souhaité se produire et il avait des victimes, et critiquer d'ailleurs également le prosélytisme dans certains quartiers. Rien à faire. Aujourd'hui, Marine Le Pen et Laurent Wauquiez ont dégainé des tweets rappelant le concept du rappeur, d'Islamo Kaira. Oui, ça existe. Et l'affaire donc devient politique. On écoute le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
Je pense que ce texte, effectivement, qui se veut, selon l'auteur, une provocation, est plus que provocant. C'est un texte qui est insupportable pour la République laïque. Je ne suis pas de ceux qui sont dans l'interdiction, mais il y a une question qui est effectivement posée. Peut-être que lui-même devrait se poser la question de savoir si sa présence dans ce lieu qui est devenu hautement symbolique ne justifierait pas une prise de distance.
Voilà, Olivier Faure, ce matin, au micro de Jean-Michel Apathy. Pierre Jacquemin, c'est une polémique qu'on a déjà vue, ce genre de choses, ce rapport entre rappeur et politique. Pourquoi là, ça devient d'un coup politique comme ça? Parce que Marine Le Pen et Laurent Wauquiez ont dégainé?
Sans doute, mais
parce qu'il est tard, ça arrive tard, c'est au mois de novembre, au mois d'octobre, ce concert.
Moi, ce qui m'inquiète et ce qui me frappe, c'est qu'on cherche à jouer sur les affects, les émotions. C'est ce qui arrive toujours, et je pense que c'est les pires travers que l'on peut trouver chez les politiques. C'est-à-dire, quand on va chercher sur un événement comme celui du Bataclan, qui évidemment nous émeut tous, nous touche tous particulièrement, quand on va chercher ça, quand on joue sur les victimes, quand on manipule, comme l'ont d'ailleurs rappelé les associations de victimes, plusieurs d'entre elles ont réagi à cette polémique en disant « Nous, ce qu'on demande, c'est la liberté de cette salle de programmer ce qu'elle a envie de programmer. » Ce jeune rappeur n'a rien dit ni de choquant, ni de condamnable par la justice. Qui sont ces hommes et ces femmes politiques qui jugent de la qualité artistique d'un artiste? C'est indécent, je trouve ça surréaliste qu'on en soit arrivé là. C'est un peu la stratégie du choc écrit par Naomi Klein, c'est-à-dire qu'on cède petit à petit. Si on en arrive à ce que les politiques décident de ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire quand on fait de l'art, c'est un problème de démocratie, c'est un problème de liberté. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est de jouer avec les affects des uns et des autres sur un sujet qui est éminemment politique et qui, je crois, est un sujet pour la France qui est majeur, celui de la liberté de s'exprimer.
François Orcival, on est là-dedans, dans cette problématique aujourd'hui sur cette liberté d'expression sur des artistes à se produire?
Écoutez, moi, ce que j'ai à dire là-dedans, c'est peu de choses, parce que Medine, je ne le connais pas, le rappeur, je ne le connais
pas. Je pensais que vous étiez
face. Mais en revanche, ce que je peux dire tout simplement, c'est qu'il sait le débat public que ça provoque.
Bon. Que ça a provoqué, c'est vrai qu'il s'est expliqué beaucoup.
Hein, voilà. Qu'il s'explique, qu'il renonce à son texte, que ce soit terminé, qu'il mette une croix dessus, et tout sera terminé. En revanche, si je puis dire, alors, sur un tout autre terrain, c'est vrai.
Oui.
Sur un tout autre terrain, c'est vrai. Mais s'il s'agit d'émotion, alors là, ceux qui veulent se rappeler du 13 novembre ou du 7 janvier devraient lire un texte absolument magnifique, très très loin de tout ça, c'est Le Lambeau de Philippe Lanson.
Très bien, bon alors en tout cas, très bien, voilà, bon, ça c'est dit en tout cas, mais c'est vrai Stéphane Vernet, on a l'impression que... Il y a d'un coup une récupération politique qu'on a déjà beaucoup vu concernant les rappeurs, toujours à peu près les mêmes d'ailleurs, qui s'affrontent. Avant, c'était par rapport au texte sur la police. Là, c'est par rapport à d'autres textes. On voit aujourd'hui qu'il y a véritablement une sorte de récupération politique entre le rap et,
Le monde. Moi, je suis comme François d'Orcival. Le rap, c'est pas ma came. Je suis plutôt Chantal Goya que Medine. J'ai pas écouté ses albums. Je connais pas les paroles. Donc, c'est difficile de juger. Par contre, ce qui
sur cette récupération. génération. C'est
ce qui me paraît assez évident, c'est que c'est quand même un univers de la provoque où on est souvent dans la surenchère, dans les paroles, etc., pour exister, pour faire de l'audience. Pour... ça fait partie du cérémonial. Or, moi, ce que je vois, c'est que ce jeune homme, la chanson qu'il lui reprochait, elle est sortie, si j'ai bien compris, une semaine
avant les attentats,
contre Charlie. Il est revenu lui-même dessus en disant non mais voilà, c'est pas moi, je l'ai pas écrite et je l'ai pas chantée dans ce contexte-là, c'est pas ce que je voulais dire. Je pense que sa pensée et il s'est exprimé là-dessus publiquement. Après, je pense qu'il faut aussi faire confiance au Bataclan. Je veux dire, les programmateurs de la salle, ils ont vécu aussi le 13 novembre. Est-ce que vous imaginez un seul instant que si eux avaient un doute, ils autoriseraient ce concert? Donc si eux disent oui, c'est que je pense que peut-être on peut leur faire confiance à eux.
Et Fleur Saint-Estève.
Oui, écoutez, sur ce sujet, c'est vrai qu'on voit s'affronter d'un côté la liberté d'expression et de l'autre ce qu'on appelle l'ordre public immatériel. Mais les politiques n'ont pas à programmer les salles de concert, pas plus qu'ils n'ont à dire si une nouvelle est une nouvelle ou si elle ne l'est pas. Donc si vous voulez, on est toujours dans ce même débat, dans cette surpolitisation, j'emploie le terme, c'est un néologisme, mais disons que c'est de ça dont il s'agit. Et puis sur la forme quand même, je veux dire, oui, délation, dénonciation, c'est nauséabond comme débat. Et voilà, on peut ne pas être d'accord avec ce rappeur, mais on peut aussi tout faire pour que ce rappeur puisse s'exprimer.
En tout cas, c'est dit. Merci beaucoup déjà, Florence Nistévan, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci Pierre Jacquemin. La une de West France, Stéphane Vernet demain.
Aquarius et les inondations, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qui pleut très fort.
Ah bah exactement, bien sûr. Oui, non, mais on a pu voir en même temps, on a fait des images dramatiques. François Orcival.
Nous avons un très joli, très beau débat, entre Bernard-Henri Lévy et Thierry de Montbrial sur Trump, la Corée et l'Iran.